Je suis sûr que vous avez déjà reçu à la maison 10, 12, 15, 20 personnes. Hein? La logistique, c'est assez important. Comment on fait pour que tout soit chaud, puis à point, puis ah, lui, c'est médium, l'autre, c'est saignant, l'autre, c'est bien cuit. Pas de ça. Non, moi, je mange pas de ça, je mange de ça. OK. Prenez ça, le scénario-là, et mettez ça pour recevoir 48 000 personnes pendant 2 semaines de toutes origines, avec des goûts alimentaires et des restrictions alimentaires. Comment on organise la logistique alimentaire du côté des Jeux à Tokyo, au Japon? Pas de sushi, semble-t-il, et pas de gluten. En tout cas, on va en parler avec Sylvain Charlebois, qui est le directeur principal du laboratoire de sciences analytiques et agroalimentaires à l'Université de Dalhousie. Bonjour, Sylvain Charlebois.
Bonjour, M. Mongrain.
Alors, qu'est-ce qui arrive avec ça, ma foi? Au Japon, pas de sushi, ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas d'allure. Mon Dieu, c'est un vrai scandale. Avant la cérémonie d'ouverture, il y a déjà un scandale. Écoutez, j'ai l'impression qu'on veut éviter toute activité de contamination alimentaire, finalement, parce que évidemment, au Japon, on sait que les nombres de cas augmentent. Le système de santé peut être extrêmement sollicité. Alors, on veut minimiser les risques, j'ai l'impression. Mais ce matin, j'ai entendu que peut-être qu'il y a certaines exceptions. Ça a l'air qu'il y a du sushi à certains endroits sur le village olympique, mais c'est pas officiel. Alors, mais quand même, on envoie un message clair, c'est qu'on veut servir aux athlètes des aliments salubre, sans risquer rien, finalement.
Ben, c'est ça parce que, bon, disons-le, je commençais en parlant des sushis, c'était presque à la blague, il y a un clin d'œil au Japon, mais la réalité, c'est que déjà, on est aux prises avec la COVID, pour laquelle il faut se protéger. S'il fallait au surplus qu'il y ait une intoxication alimentaire qui se répande là-bas, ça serait épouvantable pour la réputation de l'endroit et pour la tenue des Jeux également. Alors, vous avez fait le tour un petit peu de la question. Comment ils sont organisés? C'est quoi l'ampleur du défi?
Mais d'abord, le menu pour les athlètes est extrêmement diversifié. Hein? On mise sur 3 grandes cuisines, la cuisine asiatique, occidentale et japonaise aussi. Hein? Parce que évidemment, le Japon est le pays hôte. On parle beaucoup de sushi parce que c'est ce qu'on connaît ici, ouais. Mais il y a quand même plusieurs plats bien connus, ouais. Exactement. Comme la soupe miso que tout le monde connaît, ben la soupe il va en avoir là-bas certainement. Donc avec ces 3 grandes cuisines là, on est en mesure de satisfaire à peu près tout le monde. On offre plus de 700 options au menu, 700.
700.
Pour rien là, c'est ouais, 700. Donc si vous êtes difficile, monsieur Mongrain là, à Tokyo, si vous êtes au village olympique, vous n'êtes pas capable de trouver quelque chose à votre goût, là, je vais me poser de sérieuses questions.
Je vais faire la fine bouche, mais dites-moi, quand on regarde la situation, il n'y a pas que la diversité des menus, il y a également des raisons sociales, religieuses, de restrictions alimentaires. Pour des individus, je peux être allergique à ci, à ça. C'est marqué « sans sushi et sans gluten » dans le titre. Bon, le gluten ouais. Est-il interdit pour l'ensemble des athlètes parce que ça amène des problèmes ou si c'est un choix qui est offert également?
Ben, il y en a d'abord qui ont des intolérances, une intolérance ou même des allergies, ça va arriver. Mais de plus en plus, là, on voit que la diète sans gluten est de plus en plus importante. Et c'est la première fois qu'aux Jeux olympiques, on offre une section complète de produits sans gluten. C'est la première fois. Auparavant, c'était comme ça, ici et là. Là, on tentait de satisfaire certains athlètes qui avaient besoin de ces produits-là. Mais depuis quelques années, là, on a fait tellement d'avancées, on a tellement développé de nouveaux bons produits sans gluten. Avant, il y a 5 ans, M. Mongrain, là, la plupart des produits sans gluten n'étaient pas mangeables. C'était dur, la texture n'était pas tout à fait à point. Mais là, aujourd'hui, vraiment, les athlètes peuvent se rassasier si ils sont allergiques ou ont éprouvé une intolérance envers le gluten.
Il y a beaucoup de pays qui sont là, mais il y en a qui sont organisés par eux-mêmes. Ils ont dit, on ne prend pas de chance, on ne prend pas de risque, ou notre délégation est trop importante, on va se donner nos propres services alimentaires.
Oui, ben ça, c'est une question de nombre. Hein? Donc, il y en a 3, particulièrement la Russie, la Chine, les États-Unis, qui ont une délégation assez importante, imposante, alors on tente de satisfaire, mais tout est surveillé, hein. Vous savez, M. Mongrain, c'est pas la première fois qu'on a affaire à des soupçons de stéroïdes, de drogues pour améliorer les performances. Alors, on fait extrêmement attention au jeu pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tricherie, là. Et la tricherie passe souvent par l'assiette, hein. Je sais pas, il y a 6 mois, il y a une athlète américaine qui a été bannie des Jeux parce que elle a mangé un burrito qui contenait des stéroïdes anabolisants.
Qui lui avait
été testé positif.
À son insu, ça avait été mis dans sa nourriture.
Ben, c'est ce qu'elle argumentait, que c'était à son insu. Mais elle a perdu sa cause, donc elle n'est pas aux Jeux de Tokyo, malheureusement.
Là aussi, on n'est pas dans un pays nordique. Il paraît qu'il y a des chaleurs accablantes au Japon en cette période de l'année. La chaîne alimentaire pour la capacité de conserver les aliments en bon état, ça doit être assez quelque chose d'acheminer ça dans les cuisines de la cité olympique.
Oh oui, absolument. Donc, en logistique, il y a la chaîne froide. On doit maintenir, en fait, une chaîne froide au plus 3 degrés Celsius. À Tokyo, quand il fait 30 degrés, c'est pas évident. Il y a le fameux dernier mille avant la destination qui est extrêmement importante. C'est important de bien gérer la dernière distance entre le village olympique et les différents points de service là, pour la nourriture. S'assurer que tout ça va bien sans que la température monte trop. Que la nourriture arrive à temps et il y a plusieurs points de service sur le village qui sont ouverts 24 heures sur 24. Évidemment, parce que les gens gèrent des changements d'heure, etc. Les compétitions sont un peu partout là, dans l'horaire. Alors, c'est vraiment important et c'est 48 000 personnes, 48 000 athlètes. Là. Donc, il y a beaucoup de logistique et tout ça, bien sûr, doit être sécurisé pour que personne, en fait...
interviennent sur les aliments avant qu'ils soient servis.
Exactement. Donc, c'est beaucoup de surveillance, beaucoup de logistique. Pour 48 000 personnes, une chance que, évidemment, ce qui aide beaucoup cette année, c'est qu'il n'y a pas de partisans dans les estrades. Il n'y a pas personne autre que les athlètes.
En plus, on devrait nourrir ces gens-là dans des cafétérias ou des comptoirs alimentaires.
Oui, effectivement. Donc, c'est pour ça. Mais quand même, les Olympiques, là, souvent, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être complexe, là, servir 48 000 athlètes, médecins, équipes de soutien, etc. Mais c'est beaucoup de travail.
On parle de combien d'employés qui vont être au service alimentaire?
Bien, ça, c'est un autre problème qui a été créé par la COVID. Souvent, ce sont des bénévoles. Et on a limité le nombre de bénévoles cette année pour pas favoriser, évidemment, la propagation de la COVID. Alors, on parle d'environ 2000 bénévoles pour l'instant, en plus d'une équipe d'environ 1000 personnes qui sont, eux, payées, sont des employés des Jeux, là, comme tel.
Alors, écoutez, c'est un service 24 sur 24. À part ça, ça veut dire qu'en toute heure du jour ou de la nuit, un athlète ou des gens du personnel olympique, des accompagnateurs, peuvent se présenter dans les cafétérias et demander à être nourris avec le menu à 700 choix, là, si on peut dire.
C'est ça, exactement. Malheureusement, cette année, encore une fois, en raison de la COVID, si un athlète qui a terminé de compétitionner, l'athlète a 48 heures pour quitter le village. Alors, c'est la règle. Alors, si il y a quelqu'un de l'équipe canadienne qui aimerait avoir du sushi, ben, attendez à la fin de vos Jeux, vous allez pouvoir avoir du sushi dans la ville de Tokyo.
Sylvain Charlebois, merci beaucoup de ces précisions. C'est intéressant. C'est une facette dont on ne parle pas assez souvent, de toute cette logistique alimentaire qui est très importante. Et ces athlètes-là aussi ont des régimes particuliers, je présume, pour performer au moment où ils sont appelés à intervenir. Je ne suis pas sûr qu'ils se bourrent quand c'est le temps d'aller faire une performance athlétique.
Non, absolument. Donc, il faut faire attention, évidemment.
L'équilibre alimentaire est important. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois, directeur principal du laboratoire de sciences analytiques et agroalimentaires à Dalhousie Université. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Au retour de la pause, on va parler avec un athlète, justement, Alexandre Despatie. Vous le savez, c'est cet ancien Olympien qui a participé à ses premiers Jeux. C'était en l'an 2000, c'était à Sydney. Mais ce que je veux lui demander, c'est que c'est quoi la visualisation quand tu es, mettons, un plongeur ou un autre athlète? Il paraît qu'il faut que tu te dessines dans ta tête la pirouette que tu vas faire pour en arriver à faire la performance parfaite. Mais là, tu ajoutes à ça un autre problème. Quoi? Il y a un ennemi là, dans l'atmosphère, c'est la COVID. Ça, est-ce que ça vient perturber la concentration? Est-ce qu'on y pense, selon lui? On revient après la pause.